Radio Campus Paris.
Absence, l'émission de Radio Campus Paris dédiée à la musique contemporaine.
Moi, je me suis pété les oreilles sur cette impro d'ailleurs.
Une émission où on parle tranquillement d'une musique intranquille.
Radio Campus Paris, la radio de l'amour et du communisme apparemment.
C'est très drôle.
La vie de compositeur de la musique contemporaine est un peu déprimante. Enfin, je ne veux pas. Écoutez-en, mais sachez que.
On est comme des gamins dans, dans le grenier de grand-mère.
Quatre siamangs dans une cage qui chantent une fugue. Bon, à partir de là, voilà, c'était...
Absence, une semaine sur deux, de 21h à 22h sur le 93.9 et disponible en podcast. Bonsoir à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Campus Paris 93.9. On se retrouve ce soir pour parler de l'agoraphone, le off du festival Présence, qui sera animé par nous, le collectif Absence. Il y a deux semaines, je vous ai dit que ce serait une fête. Et justement, ce soir, on reçoit Jade Tournès, aka Mad, qui nous a concocté une boum rétrograde à laquelle vous êtes tous invités ce samedi 7 février à la Maison de la Radio. Bonsoir Jade.
Bonsoir.
On est aussi avec Alix Mercier, la scénographe de l'événement. Bonsoir.
Bonsoir.
Et à distance avec Hugo Calia, si tout marche bien, qui a composé un hommage à la composition 1960 numéro 7 de Lamont et Young, qui ouvrira le concert. Bonsoir Hugo. Ah, peut-être qu'il ne nous entend pas.
Si, je vous entends, bonsoir.
Ah, nickel, nickel. Et avec Marie-Lou à la réalisation qui orchestre tout ça, comme vous voyez, c'est du grand art. Et on va tout de suite commencer avec un extrait de la Boom Rétrograde de Jade Tournès, intitulé Avertissement.
Il est interdit de danser avec les pieds. It is forbidden to dance. It is forbidden to dance. Il est interdit de danser. Il est interdit de danser avec les pieds. De ne pas d'interdit danser, de ne pas danser. De ne pas d'interdit danser, de ne pas. Vos épaules, vos orteils,
vos yeux, vos interdits,
votre sécurité, votre dos. Vos épaules, vos orteils, avec votre ventre,
avec vos branches, 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 av
écouter Avertissement, un extrait de la Boom Rétrograde de Jade Tournès. Donc Jade, là, on a entendu des sons électroniques et aussi des sons enregistrés. Mais si j'ai bien compris, il n'y aura pas que des sons dans ta pièce et pas que des sons qui sortiront d'une enceinte. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le dispositif de la pièce ?
Oui, alors donc il y a une partie de la pièce qui est fixée, donc qui est précomposée et qui sera diffusée voilà, sur les enceintes. Donc par moment, il y aura quelques interventions de voix entre les mouvements qui vont avec le déroulé de l'histoire de la Boom. Et il y aura aussi deux improvisations donc sur platine vinyle et CD. Avec potentiellement quelques instrumentistes aussi. Donc là, ce sera pareil, diffusé sur les enceintes, mais ce sera vraiment joué et improvisé en live.
Ok, trop bien. Et donc, il y a l'air d'avoir un peu une histoire derrière, tu nous disais. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ou peut-être c'est pas pour l'instant fixé, mais nous dire tes inspirations, d'où ça vient un peu ?
Oui, alors donc l'inspiration de base, c'est un fait divers qui s'est passé il y a quelques années à Radio France, du coup pendant l'Hyper Weekend Festival, pendant un concert de rap. Donc le sol de l'Agora s'est effondré à un endroit, et donc voilà, ça a créé un peu la panique. Et donc pour la Boom, Radio France avait bien spécifié que ça devait être une Boom qui danse, mais pas trop non plus, pour éviter que le sol se réeffondre. Donc je suis un peu partie de ça, et donc là, le premier mouvement qu'on vient d'entendre, c'est l'avertissement qui dit qu'il est interdit de danser. Sauf que donc après, il y a une impro après ce mouvement-là, qui est un peu plus dansante, donc potentiellement le public se met à danser et brave l'interdiction. Donc, du coup, le public est damné. Il est condamné à descendre au 36e sous-sol de Radio France et donc à errer un peu dans les caves de Radio France, des caves un peu que j'imagine un peu infernales avec des créatures bizarres. Et donc, du coup, après, il y a toute la remontée en ascenseur, et l'ascenseur ne marche pas forcément très bien. Donc voilà, mais à la fin, tout le monde revient au rez-de-chaussée.
Trop bien. Et c'est quoi tes inspirations musicales ? Est-ce que y a des artistes qui sont pour toi des figures ? Comment t'as orienté un peu tes choix musicaux ?
Du coup, il y avait une partie qui devait être dansante, donc il y avait une inspiration un peu techno, rock, électro, oui, donc un peu club, et je voulais que ce soit quand même une pièce électro-acoustique, donc avec toutes les influences que je peux avoir, Parmigiani, Ferrari, surtout Pierre-Henri. J'ai beaucoup écouté de Pierre-Henri avant de composer, parce que je me disais que c'était un peu le format que je voulais que ça ait.
Ouais, c'est notre saint patron, parce que le générique d'absence, c'est de Pierre-Henri.
Yes.
Donc, bienvenue dans la
tuerie. Je suis au bon endroit.
C'est Pierre-Henri.
Donc, oui, voilà. Oui.
Ok. Et donc, justement, il y a toute l'idée de fête, de danse, mais pas trop. Est-ce que tu as pris ça en compte, le fait que déjà c'est une Boom dans un festival, enfin en marge d'un festival de musique contemporaine ? Après, du coup, c'est une musique quand même qui a un écho. Là, tu parlais de musique électroacoustique, donc il y a un écho dans le monde de la musique dite classique, etc. Comment tu jongles un peu entre ces diverses esthétiques ? Enfin, comment tu as trouvé un équilibre, ou au contraire, est-ce que tu as un parti pris d'aller à fond dans l'une ou à fond dans l'autre ?
J'ai pas mal cherché cet équilibre au début. J'ai essayé qu'il y ait des moments où ça danse franchement, qu'on aille à fond dans un morceau un peu club, par exemple, à un moment de la Boom. Et par moments, c'est plus destiné à l'écoute, mais quand même dans tous les mouvements, je me suis dit comment est-ce que je peux amener le rythme, de quelle manière est-ce que je peux l'amener et le groove un peu pour que même si c'est pas si on danse pas à fond, on ait un peu ce mouvement de tête. Ouais. Enfin voilà le rythme a été assez important dans la composition.
Ok. Et du coup, tu nous disais que tu vas en même temps mixer, être DJ. Il y a une bande préenregistrée, ce qu'on a entendu. Peut-être des instruments live. Comment on fait pour équilibrer tout ça, niveau composition et même niveau performance? Je ne sais pas si c'est un truc dont tu as l'habitude, mais est-ce que c'est un point d'attention ou est-ce que c'est un classico?
Dans les concerts électroacoustiques que j'ai faits auparavant avec d'autres personnes, on avait un peu ce souci de mélanger différentes choses. Donc j'ai un peu comme ça appris à organiser un programme d'une heure ou plus. Mmh. Donc je l'ai un peu vu comme ça en fait, de comme si c'était un concert et qu'il fallait qu'il y ait différentes choses que ça surprenne les gens et donc en fait ça allait plutôt bien qu'il y ait des mouvements assez différents, enfin qu'il y ait des mouvements fixés, des mouvements improvisés, de la voix. Oui. C'était un peu l'idée d'avoir quelque chose de pas de linéaire, quoi.
Ok. Et on va peut-être écouter un autre extrait, mais une dernière question avant. C'est le titre qui est quand même un peu intriguant. Je crois qu'il a interrogé pas mal de personnes. C'est quoi une boum rétrograde?
Ça aussi, ça m'a interrogé beaucoup au début. Donc c'est un titre qui était déjà prévu. Enfin, c'est pas moi qui l'ai choisi.
Ok.
Et je me suis demandé si je devais en proposer un autre ou pas. Et en fait... je me suis dit que la musique électroacoustique, ça avait un côté un peu rétrograde aussi. Et puis, y avait l'idée de revenir en arrière dans le temps. L'idée aussi que c'est pas vraiment une vraie boum. Ouais. C'est un peu le fait qu'il est rétrograde, les gens ils se disent mais c'est quoi rétrograde? Ouais. Du coup, ça, je pense que oui, ça donne un côté un peu curieux.
Ok. Les différentes parties aussi, elles ont des titres. Genre, par exemple, là, on a entendu Avertissement, ensuite on va écouter Excitation. Et surtout, le troisième est super intriguant, il s'appelle Rayonisation.
Ouais.
Et donc, j'imagine que c'est un peu lié à l'histoire que tu nous racontais. Mais c'est quoi Rayonisation? J'ai peur.
Alors, en fait, c'était un petit peu un clin d'œil à Ionisation de Varèse. Parce qu'il y a. Il y a une espèce de... Enfin, c'est une fausse ionisation, on va dire.
Ok. Parce qu'il y a ionisation, c'est une pièce avec plein de percus, de batteries et tout ça. Musique plus classique, live, avec des instruments, etc. C'est ça.
Ouais, c'est ça. Il y a un peu une profusion comme ça de sons de percussion, mais qui, en fait, de mon point de vue, au début, aux premières écoutes, ont l'air un peu... désorganisé. Ouais. En fait, c'est très organisé. Et donc, ma rayonisation, c'est un peu moins organisé que ionisation, mais il y a un peu cette idée-là de sons qui jaillissent un peu de bazar organisé,
okay.
Plus ou moins.
On écoutera ça plus tard, mais tout de suite, on va écouter le deuxième extrait de la boum rétrograde qui est intitulé Excitation cette fois.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Friday,
C'était Excitation, un extrait de la Boom Rétrograde de Jade Tournès. Donc Jade, tu nous as dit que c'était un mix de plein de techniques différentes. Mais là, rien que dans la musique qu'on a pu entendre à l'antenne, il y a plein de bruits, on ne comprend pas forcément toujours d'où ils viennent. Mais est-ce que c'est des sons que tu as enregistrés, que tu as récupérés sur Internet ou que sais-je, ou c'est des sons de synthèse, enfin, qu'est-ce que c'est le matériel sonore
Alors, la voix, c'est la mienne, avec pas mal d'effets par-dessus. J'ai de la boîte à rythme analogique, du synthé, quelques petits sons. De ma sonothèque personnelle, qui peuvent être des prises de son retravaillées, pareil avec des effets pour les changer complètement. Oui, dans ce morceau-là, c'est surtout ça. Mais ça repose quand même pas mal sur des prises de voix.
Ok, donc ta propre voix qu'ensuite tu as retravaillée et déformée. Ok. Et donc, j'ai vu que tu avais plein de casquettes, puisque tu composes. Tu es aussi chanteuse lyrique. On va en reparler, parce qu'il y a une autre pièce où tu chantes, et tu chanteras aussi dans Stay On It, qu'on a écouté la dernière émission. Tu as aussi un projet de musique pop. Quel lien tu fais entre tout ça? Est-ce que tout ça, ça s'entrenourrit, ou c'est plutôt des trucs séparés?
Alors... J'essaye, dans la mesure du possible, de mélanger comme je peux, de mettre du lyrique dans la pop, de la pop dans le lyrique et dans l'électroacoustique. Voilà, enfin, je cloisonne pas les choses. Après, suivant les événements, les demandes, ça peut être plus de l'un ou plus de l'autre. Mais par exemple, dans mes pièces électro... j'aime bien mettre toujours des références plus pop, de la voix lyrique un peu. Enfin, en fait, c'est les matières qui m'inspirent. Donc, voilà, c'est même pas forcément conscient que je les choisis. C'est des choses de ces univers-là que j'aime bien. Ouais. Et donc, dans la pop aussi, je mélange un peu, je mets des choses plus caractéristiques de l'électroacoustique.
Oui, ok. Et on parlait aussi de composer pour la danse. Et pareil, tu étais aussi compositrice pour une compagnie de danse, si j'ai bien compris.
Ouais.
Est-ce que c'est un travail particulier de composer donc vraiment pour des performeurs, aussi de composer pour que juste un public puisse s'ambiancer, quoi, et ou alors de composer quelque chose sans lien avec la danse? Est-ce qu'il y a des contraintes un peu ou des trucs qui t'inspirent particulièrement?
Bah, la danse, ouais, c'est particulier parce que bah, la musique dépend plus ou moins, mais quand même de la chorégraphie. Donc il faut porter la danse à des moments, se caler sur certaines choses. Mmh. Donc c'est plus contraint. Mais d'un autre côté aussi, voilà, il se passe quelque chose sur scène, donc c'est pas comme un concert électroacoustique. Il y a vraiment le pouvoir de la musique est un peu renforcé aussi par la danse et inversement. Enfin, il y a quelque chose de peut-être de plus expressif oui. grâce à ça. Et donc moi, au début, j'ai un peu voulu composer ma musique pour la danse comme un concert électroacoustique juste destiné à l'écoute. Et en fait, c'est vrai que ça a été un peu compliqué. C'est quand même différent. L'électroacoustique, dans les concerts, il y a quand même beaucoup de jeux sur l'espace. Mmh. C'est un peu la musique, le son qui habite l'espace. Et quand il y a la danse, c'est... voilà, c'est un peu différent.
Ouais. Ouais. Ok. Bah, justement, à propos d'espace, Alix, tu vas réaliser donc la scénographie pour l'Agoraphone.
Oui.
Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour toi le rôle du scénographe, enfin, qu'est-ce que tu te fixes comme objectif, soit en général, soit précisément dans ce projet?
Alors, ça dépend vraiment dans quel cadre. Là, effectivement, moi, c'est la première fois que je travaille pour un festival, on va dire. Mmh. Ou en tout cas, dans un cadre comme ça, où il y a plusieurs pièces et où c'est vraiment pas l'espace même de la scène, mais au contraire, l'espace d'accueil du public. Donc ça, c'est un peu différent parce que je travaille vraiment quasiment exclusivement pour le théâtre. J'ai fait un peu d'exposition, mais... C'est vraiment le théâtre d'habitude. Et donc là, on est au service d'un texte. Là, c'est une autre démarche. Et pour cet espace-là, moi, ce qui me tenait à cœur, c'était d'essayer de conserver un peu l'état d'esprit que j'avais trouvé en venant voir une autre édition d'Absence, où j'avais trouvé notamment que le rapport entre les musiciens et le public était très différent d'un concert classique, entre guillemets. Et donc, moi, l'enjeu, c'était aussi de pouvoir essayer de recréer ça dans un espace qui était celui de Radio France, donc qui est extrêmement différent et très grand. On sent vraiment que l'institution est très, très présente. C'est un hall immense dans lequel il va falloir créer un monde... dans lequel on puisse se sentir bien. Voilà, donc c'était un peu... Moi, vraiment, là, j'ai cherché à retrouver ce que j'avais un peu ressenti quand j'étais venue voir le festival, qui m'avait beaucoup plu.
Voilà. Ok, trop chouette. Et ouais, du coup, tu disais que toi, tu as l'habitude plutôt de travailler pour le théâtre. Et comment tu peux un peu nous expliquer cette différence qu'il y a entre travailler pour un théâtre, pour un texte avec un espace sur scène, et travailler pour un concert, un festival?
Ben là, pour un texte, on travaille généralement avec la mise en scène ou l'auteur, l'autrice, créer soit des tensions avec le texte existant, soit justement accompagner le texte. Ça dépend de ce dont on a besoin et ce qu'on a envie de faire. Mais on est toujours en lien avec... ce texte et ce que reçoit le spectateur et ce qu'il a ensuite, ce que ça va créer comme image dans sa tête. Donc on reste quand même sur il y a quand même une question de dramaturgie, de savoir d'où on part, qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on suggère. On sert vraiment un texte. Là, c'est plutôt de mettre les gens en condition de réception d'une œuvre sur laquelle moi je n'ai pas vraiment d'impact directement. En tout cas, que je ne construis pas spécialement. Là, c'est les œuvres, elles ont aussi leur propre mise en scène, leurs propres instruments, et puis elles amènent
chacune certainement une ambiance différente. Et c'est justement plutôt réfléchir aux conditions d'écoute.
Ouais, okay.
Et comment le public va recevoir ça. Parce qu'évidemment, c'est très différent de se retrouver sur une chaise ou sur un fauteuil rouge d'un théâtre à l'italienne. En fonction de même si on se retrouve sur une chaise, sur un banc. Là, c'est ça qui va changer aussi notre rapport à la pièce aussi qu'on va entendre. Puisqu'on va... Là, on n'est pas non plus dans un lieu où... je ne sais pas comment ça sonne, mais évidemment, on n'est pas dans l'espace dans lequel il y a les spectacles de Radio France. Donc, ce n'est pas un lieu qui est fait pour l'écoute. C'est un lieu de passage. Oui. Et nous, on va s'y installer. Donc, il y a un côté aussi un peu squat, quelque part. Enfin, on squatte le hall, ce que je trouve intéressant. Et en même temps, comment on se l'approprie.
Comment on fait un squat cosy, quoi.
Squat cosy. Et en effet, la première question, c'était justement l'assise. Et dans le festival que j'avais vu, moi, dans l'édition que j'avais vue, tout le monde était assis plus ou moins par terre. Mmh. Il y avait quelques assises, mais... il y avait surtout, enfin, l'essentiel du public était par terre. Et ça, je trouvais aussi que ça créait complètement un autre rapport, parce que les gens sont assis, mais on ne reste pas souvent assis dans la même position. Donc, les gens bougent, on s'allonge, on s'assoit. Et donc, l'idée, c'est de recréer ça aussi, d'avoir une scène qui ne soit pas trop haute, pour ne pas faire trop de distance entre les gens sur scène et le public, et qu'on puisse... comme ça, partager un peu autrement de l'expérience qu'ils auront aussi dans les autres salles où il y a le festival Présence.
Oui.
C'est aussi d'essayer de composer un contrepoint de ça. Voilà.
Ok. Et c'est des pièces très... Enfin, il va y avoir plein de pièces très différentes, avec des formations différentes. Est-ce que tu as essayé de trouver une unité, ou est-ce que ça t'a posé aussi des difficultés, ou est-ce qu'au final, tu as pu trouver une solution qui s'est adaptée facilement à tous les effectifs?
Là, moi, je ne suis pas rentrée dans les questions pratiques de comment s'installe chaque pièce. Parce que finalement, je n'ai pas eu la sensation que ce soit, d'avoir de liens à faire dans tout ça.
Oui.
C'était plutôt un cadre global dans lequel, qui soit aussi modulable, puisqu'on sait que dans l'après-midi, il y a des pièces qui se passent sur une scène. Il y a aussi justement Radio Campus qui est installé et qu'on va pouvoir écouter. Donc c'était plutôt créer des endroits différents dans l'espace pour pouvoir s'installer, regarder une chose, l'autre. Aussi avoir la possibilité de se déplacer. Il y a aussi un bar et créer d'autres petits lieux. Il y a un lieu où on va pouvoir acheter les partitions. Donc c'était surtout ce déplacement et qui va aussi donner du mouvement entre les pièces. Puis il y a des pièces qui vont avoir donné envie de danser, j'imagine. Donc le public, c'était aussi important qu'on puisse se lever ou s'asseoir, qu'il y ait cette mobilité-là du public. Parce qu'aussi, on est dans un endroit de passage et qu'on va pouvoir... au contraire, ne pas rester. Si les gens restent, c'est qu'ils ont envie d'écouter la suite. C'est pas qu'ils sont coincés dans une salle.
Oui.
Et c'était important aussi que ça puisse rester comme ça, mobile, pour qu'on puisse tout écouter. Mais il y a, en effet, il va y avoir des installations différentes. Et justement, ça, je trouve ça chouette que ça, dans le même espace, il se passe des choses complètement différentes les unes des autres.
Trop chouette. On va écouter un dernier petit extrait de la Boom Rétrograde, donc le fameux Rionisation, composé par Jade Tournès. Thank you. Alors, on est aussi avec Hugo, si tu nous entends toujours.
Ouais, je vous entends toujours.
Trop bien. Du coup, toi, tu as aussi fait une composition donc, à l'agoraphone. Et c'est un peu hybride, c'est une réinterprétation slash composition slash hommage, enfin tu vas nous en dire plus, de la composition 1960 numéro 7 de Lamonté Young. Vas-y, explique-nous un peu quelle est ta relation à cette pièce, comment t'en es parti, comment tu t'en es peut-être détaché.
Alors moi, cette pièce, je la connaissais déjà, mais j'avais pas une relation particulière. J'ai pas eu la démarche moi-même en fait de proposer un hommage. J'ai été contacté par les copains d'absence, on va dire comme ça, parce qu'en fait, je pense que c'est une volonté d'une bonne partie du collectif d'absence qui a une relation assez particulière à cette pièce, à ce compositeur, et au mouvement Fluxus et à la fois minimaliste, parce qu'en fait, Lamonté Young, il est un peu hybride entre les deux. Même si cette pièce elle est très clairement Fluxus, c'est juste une quinte qui est tenue, c'est au sein d'une œuvre où on demande aux interprètes de mettre le feu à la salle, d'attraper un papillon et de lâcher, ça c'est assez marrant, ils demandent d'attraper un papillon, de le lâcher dans la salle de concert et la pièce se termine quand le papillon est sorti de la pièce de concert. Donc là on est à fond dans le Fluxus et c'est cette idée un peu Fluxus, parfois minimaliste, qui je pense... je crois, après vous confirmerez ou pas, tient assez à cœur au collectif Absence. Et on m'a demandé si je pouvais la réinterpréter, essayer de lui rendre hommage, tout ça, parce qu'elle a été jouée lors de la dernière édition d'Absence au studio de la troisième porte bleue, je ne sais plus le nom exactement, de peinture Sainte-Marthe.
La Sainte-Marthe, oui.
Voilà. Et donc, moi, j'ai essayé de réinventer ça et ça a été beaucoup plus dur que prévu. Parce que de base, je voulais juste la réinterpréter. Mmh. Et comment réinterpréter juste une quinte, en fait, finalement, à part proposer une autre quinte ou se dire finalement, je vais faire une tierce, je sais pas. Faire deux quintes à la fois. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on n'est plus tellement dans simplement une réinterprétation, mais plutôt dans une pièce composée hommage, mais qui c'est pas. C'est rien de transcendant, j'ai rien inventé de très, très nouveau, mais j'ai essayé de rendre hommage du mieux que je pouvais à cette pièce et l'œuvre dans laquelle elle s'inscrit. Donc on y retrouve bien cette quinte, qui est si fa dièse, mm-hmm. et quelques allusions aux autres, à quelques-unes des autres œuvres, pièces de l'œuvre composition 1960. Dont la deuxième, qui est ce que je disais, mettre le feu à la salle de concert. Ouais. Donc évidemment, dans ma présentation, j'ai dit qu'on ne mettra pas le feu à Radio France. Mais l'idée, ça a été que d'essayer de l'évoquer. Donc pour ça, vous l'écouterez, mais peut-être que je spoil en disant ça, mais en fait, j'ai demandé à un violon de faire la, do dièse, la, do dièse, la. Je ne chante pas parce que je n'ai pas l'oreille absolue et j'ai pas envie qu'on se débague. Mais... La, do, la, do, la, do, la, do, la. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais ça fait comme une alarme incendie. Je crois que le timbre du violon, ça devrait assez bien coller. Et ça se superpose à la quinte. En plus de ça, j'ai essayé de jouer, moi, avec la partition. Parce que mes partitions, elles sont assez grosses. Je les fais en A3, même s'il y a très peu d'informations dessus. J'essaie de jouer avec la forme des portées, la forme des notes, des couleurs, tout ça, pour jouer un peu sur ces évocations et pour jouer aussi sur le fait que ce sont des pièces qui sont en général grandement indéterminées. Mmh. Et pour un peu laisser les interprètes faire ce qu'ils ou elles veulent de la pièce finalement. Mmh. Et donc avec les portées, j'essaie de dessiner un feu. Voilà, pour en hommage à la pièce de Lamonté Young qui demande d'allumer le feu. Et aussi, j'ai essayé de rendre hommage aux papillons, en dessinant des papillons, mais pour ça, finalement, en fait, on n'entendra pas. Et une des pièces qui consiste uniquement à annoncer que la pièce va commencer et combien de temps elle va durer, et dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut pendant cette pièce. Et j'ai trouvé ça assez intelligent de commencer par là, parce que finalement, c'est un peu cet événement à l'agoraphone. Il y aura, comme vous l'avez dit, il y aura un espace Radio Campus Paris, il y aura un espace bar, il y aura des expos, un endroit pour faire du merch, pour soutenir l'association Absence aussi. Et donc en fait, finalement, comme la montée Jung prévoit dans cette pièce de demander aux gens de déambuler finalement dans le concert, et que ceci fait partie du concert, ben, j'ai introduit la pièce plus ou moins de la même façon, vous l'entendrez précisément, de sorte à faire un écho entre l'événement qu'on organise et les compositions 1960 de la montée Jung finalement. Et c'est pour ça aussi que je crois que c'est une très bonne idée qui n'est pas la mienne, hein, finalement, de rendre hommage à ces compositions en ouverture de ce concert, de cet événement, plus qu'un concert.
Ok, ouais. Trop chouette, on a hâte d'entendre ça, mais il y a aussi du coup un côté visuel. En plus, tu nous as partagé un peu des photos de la partition et tu disais que tu as voulu rendre hommage par le dessin. Et c'est une partition donc un peu graphique, enfin même complètement graphique. Est-ce qu'en tant que compositeur, c'est un rapport différent à l'œuvre, puisque comme tu disais, ça laisse beaucoup plus de liberté. Est-ce qu'il y a le côté lâcher du contrôle qui est différent par rapport à écrire toutes les notes et toutes les nuances, où là, l'interprète va faire quelque chose de beaucoup plus proche de ce que tu avais imaginé?
Ouais, carrément. Et puis en fait, c'est assez drôle parce que... alors, moi, j'ai étudié la musique de Cage quand je faisais un master de musicologie à la Sorbonne. Et le lâcher prise, enfin, le laisser une part de son contrôle de son autorité, en fait, finalement, vis-à-vis de l'œuvre musicale, c'est un concept qui est très cageien. Et c'est pas tellement, en fait, Cage qui me l'a dicté, c'est plutôt moi, quand j'écrivais mes partitions, et que je passais énormément de temps à écrire tous les trucs note à note tels que je voulais pour avoir un effet. Plus ou moins précis, en fait, parce qu'on n'a pas toujours une idée hyper précise de ce qu'on veut, on a une idée de l'effet, mais les notes, une à une, souvent on y va à tâtons, on essaie de voir ce qui fonctionne dans le sens de cet effet-là, et en écoutant d'autres musiques, que celle de Cage, comme du Perelereski, comme du Morton Feldman, où il y a des partitions où tu as des traits plutôt que sur toutes les notes, ça monte, ça descend, voilà quoi. Et en fait, c'est l'efficacité de la chose. Parce que non seulement, moi, si je veux donner beaucoup de notes à un interprète, ce ne sera pas le cas. Il y a un total de 6 notes différentes. c'est ça. Mais si j'ai envie de donner beaucoup de notes, en effet, un peu de densité, comme ça, des notes, avant, j'écrivais beaucoup. Ça me prenait beaucoup de temps. Et aussi, pour les interprètes, ce n'est pas toujours très sympa. Mmh. Ça peut être un challenge aussi, hein. Ça peut être intéressant, hein, j'ai pas le contraire, mais c'est pas toujours très très sympa, ça peut compliquer les répétitions en fonction aussi du niveau des interprètes, en fonction aussi de l'affection qu'ils ont pour la pièce. S'ils n'aiment pas particulièrement ce type de musique, ça peut rendre la chose encore plus difficile pour elle ou eux. Et du coup, ça a été aussi un moyen de simplicité, d'aller vers du graphisme. Parce que finalement, on peut arriver à avoir des effets très très similaires, voire exacts, avec un matériau visuel et graphique, de notation, très limité. Et par exemple, j'avais écrit une autre pièce qui avait été jouée dans le cadre d'Absence, qui s'appelait Pour les oiseaux, dans laquelle, cette pièce, elle dure un bon quart d'heure, et ça dure 2 pages. C'est écrit sur 2 pages, et c'est écrit en énorme. Et pourtant, ça reste quand même très fidèle de ce que j'avais en tête. Mais c'est le graphisme, c'est à la fois esthétique, parce que la partition, elle est jolie, il y a des couleurs, c'est sympa. Mais en plus de ça, c'est un moyen très pratique, à la fois pour moi, parce que ça me prend moins de temps. Et aussi, moi, je le vois surtout comme ça pour les interprètes. D'un autre côté, en plus, c'est ludique. Parce que, moi, je trouve ça ludique, peut-être pas tout le monde, mais c'est un peu fun, ça donne un peu envie de jouer avec. Ce sera jamais la même chose, mais on aura toujours plus ou moins les mêmes effets. Aussi, on peut essayer de tirer, parce que des fois, je fais une petite notice pour expliquer comment on peut jouer ça. Je peux oublier de donner des informations. Et du coup, quand il y a des choses qui ne sont pas claires, ça ne joue pas toujours en ma défaveur. Parce que, en fait, les interprètes, finalement, ils connaissent mieux leur instrument que moi, je connais leur instrument. Et il peut faire des choses qui tirent les possibilités de ma partition de manière assez fun. Et c'est ça que je trouve super intéressant aussi.
Mmh. Et Jade, tu as eu aussi un peu peut-être ces mêmes questionnements, parce que tu fais aussi une réinterprétation, là peut-être plus proche, enfin tu vas aussi nous dire en fait, mais d'une œuvre du 20e qui s'appelle Stripsody de Cathy Berberian, Et toi, tu nous proposes une batterie psaudie. Et à la base, c'est aussi une partition graphique. Est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu reproduire ? Déjà, est-ce que t'as... parce que ce sera toi l'interprète. Donc, est-ce que tu as noté des trucs ou est-ce que c'est un truc de... d'apprentissage, enfin de travail par cœur à partir de ta mémoire, en gros ? Est-ce que tu as dessiné des trucs ? Est-ce qu'il y a une trace écrite pour toi, pour les autres, pour...
Donc j'ai commencé par noter des choses textuelles en lisant des analyses par-ci par-là de l'œuvre. Donc je voulais me donner des indices que j'ai mis directement sur la partition graphique qui existe déjà. Et donc j'ai commencé par travailler comme ça. Et là, il n'y a pas très longtemps, j'ai essayé de rajouter des emojis en fait, et je pense que je vais, parce que du coup, je rajoute des éléments sonores qui font un peu plus référence à notre époque. Donc il y a des, par exemple, un like Facebook, le bruit d'un like Facebook. Donc il y a le pouce, l'emoji pouce, c'est parfait pour ça. Donc je me dis que peut-être je pourrais faire une version de juste en emoji de la batterie psaudie. Mais c'est pas encore fait pour l'instant. En tout cas, pour le travail, j'ai vu que finalement... Bon, déjà, les dessins qui existent, ils sont très parlants. Donc, oui. C'est assez agréable de travailler avec. Et en plus, finalement, des petites notices de texte, en tout cas, dans le travail d'interprète, moi, ça m'aide davantage, oui.
Et est-ce que, justement, à la fois cette liberté et cette possible efficacité, précision dont parlait Hugo... Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi là, c'est à travers les années, puisque Cathy Perbarion, elle est morte. Mais est-ce que toi, c'est plutôt agréable de travailler avec ça, ou est-ce qu'au contraire, c'est un peu effrayant d'avoir tant de marge de manœuvre ?
Ben, si je me retrouvais juste avec la partition, ce serait peut-être un peu effrayant. Mais en même temps, du coup, ouais, le fait de pouvoir faire ce qu'on veut, ça peut être... Ça peut être sympa, mais je pense que c'est un travail peut-être un peu plus long. Moi, je sais qu'au tout début, quand j'étais juste devant la partition, je paniquais un peu.
Ouais.
Et c'est vraiment en écoutant des versions, surtout celle de Berberian, que j'ai beaucoup écoutée. Et puis, en lisant des gens qui en parlaient ou... Voilà, pour avoir... Parce qu'en fait, il y a du sens qu'on voit pas forcément... juste en regardant la partition, il y a des liens que des gens ont analysé que moi j'avais pas vu au début oui. Voilà.
Ok, et justement peut-être question pour vous deux, pour Hugo et pour toi, est-ce que pour vous c'est important que le public voit cette partition, parce que ça devient aussi une œuvre en elle-même? Il me semble que Cathy Perbarion, elle a engagé un artiste pour qui dessine. Tu disais que les dessins sont assez beaux et tout. Ou est-ce que c'est plus un truc qui se passe entre l'interprète et le compositeur et qui peut rester... évidemment, tout le monde peut voir la partition, c'est pas Secret Défense, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui manque si le public la voit pas?
Pour la Stripsodie, effectivement, du coup, il y a vraiment... le visuel et ce qu'on entend sont différents. Je pense qu'on perçoit la pièce différemment quand on voit la partition. Mais finalement, j'aime bien l'idée que l'interprète ne voit pas la même chose que le public.
Ouais.
Qui travaille avec cet imaginaire-là, mais... c'est un peu comme si, du coup, si je montrais la partition, j'aurais l'impression que le public venait dans ma cuisine quand je...
Okay.
Ce qui peut être intéressant aussi. Si c'est dans ce but-là, oui.
Ouais.
Moi, je suis assez d'accord. Hein, dans les deux cas, en fait, c'est intéressant. Pour la Stripsodie in Blue, la partition, elle est très drôle, en fait. Il y a un petit cow-boy qui est dessiné. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est sûr que ça peut ruiner une part de l'imaginaire de l'auditeur, de voir le cow-boy et d'entendre le cow-boy en face. Alors que si on entend le cow-boy et qu'on ne voit pas la partition, j'ai réduit cette magnifique partition au cow-boy. Hein, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi un cochon qui fait wink. En vrai, il y a un jeu sur le comique aussi. dans cette partition. Après, moi, dans ce que je fais, alors, honnêtement, peu m'importe dans les deux cas, je trouve ça intéressant. Mmh. Parce que la partition, je la trouve sympa, je la travaille un petit peu. Enfin, je la rate, c'est pas grave. Mais même quand elle est ratée, ça me dérange pas qu'on la voit, en fait. Et finalement, c'est donner à entendre, donner à voir. Et ben, qu'on la découvre avant, pendant, après. Dans les trois cas, j'ai l'impression que c'est intéressant pour des raisons différentes. Donc, s'ils l'ont sous les yeux, tant mieux. S'ils l'ont pas, pas grave.
Ouais, ok, je vois. Et oui, il y a cette dimension visuelle, mais il y a aussi une dimension hyper théâtrale. Parce que, en fait, c'est limite plus des. Enfin, c'est plus des exclamations que vraiment des notes. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as l'habitude, que ce soit en tant que chanteuse lyrique ou compositrice ou chanteuse pop aussi, enfin, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as vraiment dû t'approprier là, sur cette œuvre-là?
Alors, c'est plus proche de l'impro pour moi,
ouais.
De l'impro générative, parce que du coup, il y a vraiment l'idée de reproduire avec la voix des sons d'autres sources.
Ouais.
Donc, c'est plutôt un travail de. Oui, sur l'imaginaire. Et comme c'est fait en live avec le corps, c'est pas comme l'électroacoustique, c'est pas les mêmes, les mêmes moyens. Donc. Le fait de connaître un peu les possibilités de sa voix, c'est vrai que ça aide beaucoup, enfin, de pouvoir aller dans les registres, donc ça c'est le chant lyrique qui permet ça, mais ouais, je pense que vraiment c'est mon travail en impro génératif qui m'aide beaucoup là-dessus.
Ok, bon bah trop chouette, j'ai super hâte d'entendre tout ça. Bah, je pense qu'on va finir doucement l'émission. On va pouvoir écouter justement Stripsody, donc l'œuvre de laquelle tu es partie et avec laquelle tu vas justement faire un peu ta petite cuisine, de Cathy Berberian, qui sera interprétée par Jerry Lynch Chow. Mais avant, je vous rappelle de nous retrouver le samedi 7 février à la Maison de la Radio pour l'Agoraphone, donc le off du Festival Présence. On sera là de 14h à 23h. Et on commencera avec donc l'hommage à la composition 1960 numéro 7 composée par Hugo Calea. On finira avec la Boom rétrograde de Jade Tournès. On passera par la Bad Tripsody, toujours chantée par Jade Tournès. Et le tout dans la scénographie d'Alix Mercier. Donc je vous remercie grandement tous les trois d'avoir participé. Merci beaucoup Marie-Lou à la technique. Et on se quitte avec la Stripsody de Cathy Berberian.
Merci à vous et bravo pour tout.
have naturally curly hair. Do you like girls with naturally curly hair? Good grief. Boom, pop, pouf. You lullaby Brahms? Scratch, scratch, swish, swing, tack, tip, thump, tack, tick, tick, tack, thump, twang.
Je suis en SPM, les émotions m'enchaînent.